Chapitre 3. Toute idéalisation rend la vie plus précaire. L'embellir, c'est lui faire perdre son caractère de complexité, c'est la détruire. Laissez cela aux moralistes, mon ami. L'histoire est faite par les hommes, mais ils ne la font pas avec leur cerveau. Les idées qui naissent de leur intelligence consciente ne jouent qu'un rôle insignifiant dans la marche des événements. L'histoire est dominée, de même qu'elle est déterminée, par l'outil et la production de travail, par la force des conditions économiques. Le capital a fait le socialisme, et les lois qu'a créé le capital pour la protection de la propriété sont responsables de l'anarchie. Nul ne peut dire quelle sera plus tard la forme de l'organisation sociale. Dès lors, pourquoi se livrer à des prophéties fantaisistes? Tout au plus représenterait-elle, sans aucune valeur objective, l'opinion du prophète qui les a émises. Je le répète, il faut laisser ce passe-temps aux moralistes, mon garçon. Michaelis, l'apôtre libéré, discourait d'une voix uniforme, une voix qui s'essoufflait comme si le matelas de graisse qui enveloppait sa poitrine l'amortissait et l'oppressait de son poids. Il sortait rond comme un tonneau d'une prison construite d'après les derniers principes de l'hygiène moderne. Son ventre énorme, ses joues bouffies, recouvertes d'une peau blafarde à demi transparente, donnaient à croire que pendant 15 années, ses geôliers, serviteurs d'une société outragée, s'étaient fait un devoir de le gaver d'aliments nutritifs dans une cave humide et sans lumière. Jamais, depuis sa libération, il n'avait réussi à diminuer son poids d'une seule once. On disait qu'une vieille dame fort riche l'avait envoyé 3 saisons de suite faire une cure à Marienbad. La dernière fois, il fut sur le point de partager la curiosité publique avec une tête couronnée, mais la police lui enjoignit de quitter la place dans les 12 heures, et son martyre fut perpétué par une interdiction définitive de revenir prendre les eaux bienfaisantes. Mais à présent, il était résigné. Le bras, si gras au coude qu'on n'en distinguait pas l'articulation, et que sa courbe ressemblait à celle des bras d'un gros pantin bourré de son, le bras appuyé sur le dos d'une chaise, il se penchait sur ses cuisses énormes et courtes pour cracher dans la grille. « Oui, j'ai eu le temps de réfléchir un brin, » ajouta-t-il sans emphase. « La société m'a octroyé tout le temps voulu pour méditer. » À l'autre coin de la cheminée, dans le fauteuil de crin généralement réservé à la mère de Madame Verloc, Karl Jundt ricanait tristement dans une grimace noire de sa bouche édentée. Le terroriste, comme il se dénommait lui-même, était un vieillard chauve au menton orné d'une barbe de bouc dont la touffe, blanche comme la neige, pendait sans consistance. Dans son regard éteint survivait une extraordinaire expression de malveillance sournoise. Quand il se levait, péniblement, tendant en avant une main décharnée, tâtonnante, déformée par la goutte, ce mouvement faisait penser au geste d'un meurtrier moribond, réunissant toutes ses forces pour porter un dernier coup. Une grosse canne, sur laquelle il s'appuyait en marchant, tremblait dans son autre main. « J'ai toujours rêvé, vociféra-t-il d'un ton rageur, d'un groupe d'hommes fermement résolus à écarter tout scrupule dans le choix des moyens, assez fort pour s'intituler hardiment exterminateur et franc de toute atteinte de ce pessimisme résigné qui corrompt le monde. » Nulle pitié pour personne, pas même pour eux. La mort enrôlée pour tout de bon au service de l'humanité. Voilà ce que j'aurais voulu voir. Le tremblement de sa petite tête chauve transmettait une vibration comique à la touffe blanche de sa barbe de bouc. Un étranger n'aurait rien compris à son élocution. Son gosier desséché et ses gencives démantelées, où semblait s'accrocher sa langue au passage, servaient mal l'ardeur usée de son emportement, qui ressemblait, dans sa fureur impuissante, à la surexcitation d'un sénile débauché. Installé sur le canapé, à l'autre bout de la pièce, M. Verloc fit entendre un grognement hautement approbateur. Le vieux terroriste tournait lentement la tête de côté et d'autre, au bout de son cou décharné. « Et je n'ai jamais pu en réunir plus de 3 ensemble, de ces hommes-là. Voilà pour votre infect pessimisme, » gronda-t-il à l'adresse de Michaelis. Celui-ci décroisa ses grosses jambes, pareilles à 2 traversins, et coula brusquement le pied sous sa chaise en signe d'exaspération. Lui, un pessimiste, cela n'avait pas de sens. il se récria contre cette accusation outrageante. Il était si peu pessimiste qu'il entrevoyait déjà à bref délai la destruction logique, inévitable, de la propriété individuelle en raison des vices inhérents à cette institution. Les détenteurs de la propriété n'avaient pas seulement à tenir tête au prolétariat naissant. Il leur fallait encore se livrer bataille entre eux. Oui, la résistance acharnée et les luttes intestines, tel apparaissait le sort de la propriété individuelle. C'était fatal. Ah, pour conserver cette conviction, il ne comptait pas sur les surexcitations sentimentales, les déclamations, les déchaînements de fureur, les visions de drapeaux rouges sang flottant au vent, les métaphoriques soleils de vengeance se levant, blafards au-dessus de l'horizon d'une société condamnée. Non, certes, il se glorifiait de ce que la froide raison était à la base de son optimisme. Oui, son optimisme. Son pénible sifflement d'asthmatique cessa. Puis, après deux ou trois allaitements, il ajouta « Croyez-vous que si je n'avais pas été l'optimiste que je prétends être, je n'eusse pas trouvé en 15 ans un moyen de me couper la gorge ? Et si ce moyen m'avait manqué, il restait toujours les murs de ma cellule contre lesquels me brisait le crâne. » Son souffle poussif privait sa voix de tout feu et de toute animation. Ses grandes joues pâles pendaient comme deux poches pleines, sans un mouvement, sans un frémissement. Mais ses yeux bleus, aux prunelles rétrécies comme pour épier, reflétaient cette expression de sagacité infatuée, un peu hagarde dans sa fixité, dont s'étaient éclairées les méditations de l'indomptable optimiste dans la nuit de sa prison. Karl Jundt restait debout devant lui, un pan de sa vieille pèlerine verdâtre cavalièrement jeté sur son épaule. Assis en face de la cheminée, le compagnon aussi ponne, ex-étudiant en médecine, principal rédacteur de l'organe de l'AP, allongea ses longues jambes, présentant ses semelles à la flamme du foyer. Des cheveux jaunes en tempête couronnaient sa face rubiconde couverte de taches de rousseur. Le nez aplati, la bouche lipue, lui donnait un type se rapprochant du nègre. Ses yeux en amande avaient des œillades languides au-dessus des pommettes en saillie. Une cravate voyante flottait sous le col rabattu de sa chemise de flanelle et couvrait les revers de son veston boutonné. La tête appuyée au dos de la chaise, le cou tendu, il portait à ses lèvres une cigarette au bout d'un long tube de jonc et lançait au plafond des spirales de fumée. Michaelis poursuivait l'exposé de son idée. L'idée mûrie pendant sa longue réclusion, récompense de sa captivité, pensée qui prenait pour lui l'importance d'une vérité révélée par des visions. Il parlait pour lui seul, indifférent à l'opinion sympathique ou hostile de ses auditeurs, indifférent à leur présence même, par suite de l'habitude qu'il avait prise, entre les quatre parois blanchies de sa cellule, de méditer à voix haute, dans le sépulcral silence de la grande bâtisse de briques, aux murailles aveugles, sinistre et hideuse comme une morgue colossale au noyer du torrent social. Michaelis n'aimait pas la discussion, non parce qu'il redoutait qu'un argument vînt ébranler sa foi, mais parce que le seul fait d'écouter une autre voix que la sienne l'impressionnait désagréablement, en jetant le désordre dans ses mêmes pensées que, durant tant d'années d'isolement plus morne qu'un désert sans oasis, aucune voix mortelle n'avait combattu, commenté ou approuvé. Personne maintenant ne l'interrompait plus, et il refit sa profession de foi, irrésistible et définitive, comme une action de grâce. Le secret de la destinée découvert sous l'aspect matériel de l'existence. La condition économique du monde responsable du passé et formatrice de l'avenir. La source de toute l'histoire, de toutes les idées guidant le développement intellectuel de l'humanité jusqu'au mouvement de ses passions. Un éclat de rire discordant du compagnon Ossipone vint soudain couper court à la tirade. L'apôtre interdit bredouilla. Il roula des yeux égarés, puis il les ferma comme pour rallier ses pensées en déroute. Un silence tomba. Les deux becs de gaz et le rayonnement de la grille avaient singulièrement échauffé l'atmosphère de la petite arrière-boutique. M. Verloc, quittant à regret le canapé, alla ouvrir pour donner de l'air la porte de la cuisine, par laquelle on entrevit l'innocence Stevie, qui, très sagement assis devant la table, traçait d'innombrables cercles dont l'enchevêtrement inextricable, la forme invariable et les intersections confuses ressemblaient à quelque épure d'un chaos cosmique, à quelque symbole de l'inconcevable. L'artiste ne tourna même pas la tête. Dans l'application qu'il mettait à sa tâche, son dos frissonnait, et son cou maigre, offrant un creux profond à la base du crâne, semblait tendre à se briser. Monsieur Verloc, avec un grognement de surprise et de désapprobation, revint au canapé. Alexandre Ossipone se dressa, très long sous le plafond bas, dans son complet râpé de serge bleu. Il secoua l'engourdissement d'une longue immobilité et descendit les deux marches de la cuisine pour regarder par-dessus l'épaule de Stevie. Puis il revint, prononçant sur un ton d'oracle très caractéristique, tout à fait typique. « Qu'est-ce qui est caractéristique ?» fit le grognement interrogateur de M. Verloc, affalé à nouveau dans l'encoignure du canapé. Ossipone s'expliqua négligemment avec une nuance de condescendance et un hochement de tête du côté de la cuisine. Ses dessins sont là, tout à fait caractéristiques d'une certaine forme de dégénérescence. « Vous voulez dire que ce gamin est un idiot, n'est-ce pas ?» grommela M. Verloc. Le compagnon Alexandre Ossipone, surnommé le docteur, ex-étudiant en médecine sans diplôme, conférencier ambulant, chargé de dévoiler devant le public des associations ouvrières les aspects socialistes de l'hygiène, auteur d'une étude soi-disant médicale sur les vices rongeurs de la classe moyenne, publiée sous forme de brochure populaire, que la police s'empressa de saisir, délégué spécialement par le plus ou moins mystérieux comité rouge, avec Karl Jundt et Michaelis, à la propagande littéraire, le compagnon Alexandre Ossipone leva, sur l'obscur familier d'au moins deux ambassades, ce regard de suffisance hautaine et ennuyée que seul le frottement de la science peut donner à la sottise humaine. Appelez-le comme il vous plaira. Dégénéré est le terme scientifique. Ce qui est sûr, c'est que tous les signes y sont. Il suffit de regarder les lobes de ses oreilles. Si vous lisiez Lombroso, Monsieur Verloc, l'air contrarié, s'était allongé sur le canapé et semblait perdu dans la contemplation des boutons de son gilet. Mais une légère rougeur colora ses joues. Depuis quelque temps, toute allusion, même la plus éloignée, à la science, mot en lui-même inoffensif et d'une signification très vague, jouissait du curieux privilège d'évoquer en lui l'image offensante de M. Vladimir, une image d'une netteté presque surnaturelle. Ce phénomène, qui mériterait à juste titre d'être classé parmi les merveilles de la science, mettait M. Verloc dans un état d'exaspération indicible, tendant à s'exprimer par des bordées de jurons. Il se contint cependant, et ce fut la voix de Karl Jundt qui se fit entendre coupante. « Lombroso est un âne !» Le compagnon Ossipone reçut d'un air effaré le choc de ce blasphème. Quant au vieux terroriste, ses yeux sans regard perdus sous l'ombre épaisse d'un front osseux, il répéta, non sans se prendre le bout de la langue entre les lèvres tous les deux mots, « Lombroso est un âne !» À ses yeux, il suffit d'être emprisonné pour être criminel. Simple, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on dira de ceux qui emprisonnent, hein? Oui, de ceux qui emprisonnent de force. Et qu'est-ce que le crime? Le sait-il seulement? Cet âne qui a fait son chemin dans un monde d'imbéciles, en examinant les oreilles et les dents d'un tas de pauvres diables malchanceux? La forme des dents et les oreilles désignant le criminel? La bonne farce. Eh bien, et la loi? Elle le désigne encore mieux, la loi, avec ce petit instrument inventé par les repus pour se protéger contre les affamés. Elle marque au fer rouge leur misérable peau. Sentez-vous d'ici l'odeur de la chair brûlée? L'entendez-vous grésiller? Voilà l'estampille qui, plus clairement que tout le reste, désigne le délinquant aux études ineptes de tous vos Lombroso. Ses jambes et la pomme de sa canne s'agitaient, tandis que le buste, drapé dans les larges pans de la vieille pèlerine, conservait son attitude de défi déjà historique. On eût dit qu'il humait l'air infecté de cruauté sociale, qu'il tendait l'oreille à des bruits atroces, et il y avait dans son attitude quelque chose de très impressionnant. Ce vétéran de la dynamite, presque moribond maintenant, avait été dans son temps un émouvant acteur sur les estrades de meeting, dans les assemblées secrètes et les entretiens privés. Pourtant, le fameux terroriste n'avait jamais, personnellement, levé son petit doigt contre l'édifice social. Il n'était pas homme d'action, il n'était pas non plus l'orateur à l'éloquence torrentielle qui entraîne les masses dans le tumulte écumant d'un irrésistible enthousiasme. Avec une subtile préméditation, Il préférait le rôle d'excitateur insolent et haineux des impulsions sinistres que couve l'aveugle envie, la vanité exaspérée de l'ignorance, que surexcitent les souffrances de la misère et de la pauvreté, et qui déforment aussi les nobles et illusoires espoirs de la juste colère, de la pitié et de la révolte. L'ombre de son mauvais génie s'attachait à lui comme le relent d'une drogue mortelle dans une vieille fiole de poison, vide maintenant, inutile, et bonne à jeter aux ordures avec tout ce qui a fini de servir. Michaelis, l'apôtre libéré, souriait béatement, les lèvres closes. Sa face pâteuse de pleine lune se penchait sous le poids d'une approbation mélancolique. Il savait ce que c'était, lui. Il avait senti sur sa chair le grésillement du fer rouge, ainsi qu'il le fit placidement observer. Le compagnon Ossipon avait eu le temps de se remettre. Il reprit dédaigneusement « Vous ne comprenez pas ». Il s'arrêta court, intimidé par les orbites ténébreuses des mortes qui tournèrent lentement vers lui leurs aveugles regards, comme si le seul son de sa voix les eût guidés. Et, d'un léger mouvement d'épaule, il renonça à la discussion. Stevie, habitué à se mouvoir sans qu'on s'inquiétât de lui, avait quitté la table de la cuisine pour gagner son lit en emportant ses dessins. Il se disposait à franchir la porte de l'arrière-boutique quand il reçut en plein visage la tirade éloquemment imagée de Carl Jung. Les papiers couverts de cercles s'échappèrent de ses doigts. Ses yeux écarquillés se fixèrent sur le vieux terroriste et il resta planté là comme immobilisé soudain. L'horreur et la crainte morbide de toute douleur physique étaient un des traits caractéristiques du pauvre Stevie. Il savait qu'un fer chaud appliqué sur la peau cause une sensation fort pénible. Aussi ses yeux effarés flamboyèrent-ils d'indignation. Cela devait faire terriblement mal. Sa bouche s'ouvrit toute grande. Cependant, Michaelis, à contempler fixement le feu, avait retrouvé l'isolement indispensable à la suite de ses idées. Il reprit le fil de ses discours optimistes. Il dépeignait le capital condamné dès le berceau, empoisonné par le principe de compétition qui naissait en lui. Les gros capitalistes dévorant les petits, concentrant le pouvoir et les agents de production, perfectionnant les procédés industriels et, dans leur folie ambitieuse, préparant, organisant et parfaisant la légitime succession du prolétariat sacrifié. Michaelis prononça le grand mot de « patience » et le clair regard de ses yeux bleus levés vers le plafond bas rayonnait de foi séraphique. Sur le seuil, Stevie, calmé, semblait plongé dans une sorte d'hébétude. Les traits du compagnon Ossipon furent tiraillés par des grimaces d'exaspération. En un mot, on n'aurait, selon vous, qu'à attendre et laisser faire. « Je ne dis pas cela, » protesta doucement Michaelis. Sa vision de la vérité était devenue si intense que le son d'une autre voix ne parvint pas cette fois à le dérouter. Sans détourner ses regards des charbons ardents, il reprit son exposé. La préparation de l'avenir était nécessaire, et il admettait que le grand changement sortirait peut-être d'un soulèvement général. Mais la propagande révolutionnaire est œuvre délicate et de haute conscience, puisqu'elle implique l'éducation des futurs maîtres du monde. Il y faudrait apporter autant de soins qu'à l'éducation des rois. Il fallait expérimenter ces principes avec précaution, timidement même, dans l'ignorance où nous sommes de l'influence qu'un changement économique pourra produire sur le bonheur, les mœurs, l'esprit, l'histoire de l'humanité. Car l'histoire est faite par des instruments et non par des idées. Et en changeant les conditions économiques, on change tout du même coup, l'art, la philosophie, l'amour, la vertu, jusqu'à la vérité. Le charbon dans la grille se tassa avec un léger bruit. Michaelis, ermite visionnaire du pénitencier désertique, se leva brusquement. Pareil à un ballon gonflé, il ouvrait ses bras courts comme s'il allait, d'un effort, tenir serré sur son cœur un univers régénéré. Et d'une voix que la passion rendait plus haletante, il conclut « L'avenir est aussi certain que le passé. Esclavage, féodalité, individualisme, collectivisme, ces divers états doivent logiquement et indubitablement succéder l'un à l'autre. C'est la formule d'une loi et non une creuse prophétie. » La moue dédaigneuse qui plissait la lèvre épaisse du compagnon Ossipon accentua encore le type négroïde de sa face. « Baliverne ! » s'écria-t-il avec un calme relatif. il n'y a ni loi ni certitude. Au diable la propagande par l'éducation. Ce que savent les gens, cela nous est bien égal, quelle que soit l'exactitude de leur connaissance. Ce qui nous importe, c'est l'état d'émotion des masses. Sans émotion, pas d'action. Après une pause, il ajouta sur un ton de fermeté modeste, « Ce que je vous dis là, c'est scientifique, scientifique. Hein? Que dites-vous, Verloc ?»«
Rien !»
gronda du fond du canapé M. Verloc, à qui la répétition du mot abhorré avait arraché un juron. Le bredouillement venimeux du vieux terroriste édenté intervint. « Savez-vous comment je qualifierais la nature des conditions économiques actuelles ? Je les qualifierais de cannibales. Voilà ce qu'elles sont. Elles repaissent leur avidité avec la chair pantelante et le sang chaud du peuple. Pas autre chose. » Stevie reçut cette terrifiante déclaration avec un gloussement d'horreur, et immédiatement, comme s'il eût avalé un poison foudroyant, il s'affaissa toute une pièce sur les marches de la cuisine. Michaelis parut ne pas entendre. Ses lèvres semblaient solidement collées l'une à l'autre. Il n'eut même pas un frémissement de ses lourdes bajoues. D'un regard trouble, il chercha son chapeau rond et rigide et le posa sur sa grosse tête. L'énorme boule de son corps obèse avait l'air de flotter très bas entre les chaises. Karl Jundt, étendant comme une griffe une main incertaine, cabossa en bataille le sombrero de feutre noir qui abritait les sillons et les rides de sa figure ravagée. Puis il s'ébranla lentement, martelant à chaque pas le plancher, du bout ferré de son bâton. Ce fut toute une affaire de le mettre dehors. De temps en temps, il s'arrêtait, comme pour réfléchir, et il ne se remettait en marche que poussé en avant par Michaelis. Le doux apôtre lui prit le bras avec une sollicitude toute fraternelle. Derrière eux, les mains dans les poches, le robuste ossipone esquissait un bâillement. Sa chevelure rutilante était coiffée d'une casquette bleue à visière de cuir verni, posée bien en arrière, qui lui donnait l'air d'un matelot norvégien dégoûté de vivre après une violente bordée. M. Verloc accompagna ses hôtes dehors, tête nue, son vaste gilet déboutonné, et sans quitter des yeux le sol. Il ferma la porte derrière leur dos avec une colère contenue, tourna la clé et poussa le verrou. Il n'était pas content de ses amis. Selon la doctrine de M. Vladimir, ils lui apparaissaient des êtres absolument futiles. Son rôle de pure surveillance dans la politique révolutionnaire ne disposait guère M. Verloc à prendre d'emblée, dans les réunions tenues chez lui comme en de plus vastes assemblées, l'initiative de l'action. Il lui fallait être prudent. Surexcité par la juste indignation d'un homme qui a dépassé la quarantaine et qu'on menace dans ce qui lui est le plus cher, son bien-être et sa sécurité, il se demandait ce qu'il y avait à attendre de la part de tels gens. Ce Jundt, ce Michaelis, cet Ossipone. Différant son intention d'éteindre le gaz qui brûlait au milieu de la boutique, M. Verloc s'enfonça dans l'abîme de ses réflexions. Avec la clairvoyance que donne la similitude de tempérament, il prononça son verdict. Une bande de fainéants. Ce Karl Jundt, soigné par une vieille femme aux yeux larmoyants, qu'il avait enlevé à un ami autrefois, et que par la suite il avait essayé vainement de jeter à la rue. Bien heureux pour Jundt qu'elle eût persisté à revenir chaque fois, car sans cela, il n'aurait personne à présent pour l'aider à descendre de l'omnibus à la grille de Green Park où il avait l'habitude de traîner ses jambes tous les matins qu'il faisait beau. Quand l'intraitable sorcière mourrait, il faudrait bien que ce fantôme fanfaron disparût également. Ce serait la fin du fougueux Karl Jundt. Le doux Michaelis n'avait pas davantage l'approbation de M. Verloc. Celui-là, une grande dame riche l'avait adopté. Et ne s'était-elle pas imaginée récemment de l'envoyer dans une villa qu'elle possédait à la campagne? L'ex-prisonnier pouvait y rêver à son aise, dans les sentiers ombreux, pendant des jours entiers, au sein d'une oisiveté délicieuse et humanitaire. Quant à Ossipone, le gueux serait sûrement sûr de manquer de rien, tant qu'il y aurait en ce monde des filles nigaudes pourvues de bons livrets de caisse d'épargne. Et M. Verloc, doué pourtant du même tempérament que ses acolytes, trouvait à son propre cas des distinctions subtiles, là où il n'y avait en somme que d'insignifiantes différences. Il les relevait avec une certaine complaisance, car l'instinct de respectabilité conventionnelle était très développé chez lui, où il n'avait d'égal que sa répugnance invétérée pour toute espèce d'occupation reconnue, défaut naturel qu'il partageait d'ailleurs avec la plupart des réformateurs révolutionnaires, quel que fût l'ordre social. Car, de toute évidence, on ne se révolte pas contre les avantages et les bénéfices qu'offre l'ordre social, mais contre le prix dont il faut les payer sous les espèces de moralité courante, de contraintes personnelles, de labeur. La majorité des révolutionnaires sont surtout les ennemis de la discipline et de la fatigue. Il est aussi des natures qui estiment, d'après leur sens de la justice, que le prix exigé est monstrueusement disproportionné, odieux, opprimant, vexatoire, humiliant, rapace, intolérable. Ceux-là sont des fanatiques. Le reste des rebelles sociaux sont les rebelles de la vanité, cette mère de toutes les illusions, nobles et viles, compagne des poètes, des réformateurs, des charlatans, des prophètes et des incendiaires. Perdu un long moment dans l'abîme de sa méditation, M. Verloc n'atteignit pas à la profondeur de ses considérations abstraites. Peut-être n'en était-il pas capable. En tout cas, il n'en eut pas le temps. Il en sortit soudain avec un sursaut pénible au souvenir de M. Vladimir. Un autre de ses associés aussi, celui-là, qu'en vertu de subtiles affinités morales, il savait juger correctement. Il le considérait comme dangereux. Un sentiment d'envie traversa son esprit. Ah, ils étaient bien venus à paresser, tous ces gaillards-là. Ils n'étaient pas talonnés par M. Vladimir, eux. Et ils avaient des femmes sur qui retomber. Tandis que lui, il avait une femme à nourrir. Arrivé à ce point, une simple association d'idées mit M. Verloc face à face avec la nécessité de regagner son lit tôt ou tard dans la soirée. Pourquoi n'irait-il pas se coucher à présent, à l'instant même? Il soupira. Cette nécessité ne revêtait pas une forme aussi agréable qu'elle aurait pu le faire normalement chez un homme de son âge et de son tempérament. Il redoutait le démon de l'insomnie, lequel, il le sentait, l'avait choisi ce jour-là pour victime. Étendant le bras, il éteignit le gaz au-dessus de sa tête. Une traînée lumineuse pénétrait par la porte du petit salon et tombait derrière le comptoir. La lueur permit à M. Verloc de vérifier d'un coup d'œil le nombre de pièces d'argent que contenait le tiroir-caisse. Il n'y en avait guère. Pour la première fois depuis qu'il avait ouvert sa boutique, il se préoccupa de la valeur réelle qu'elle représentait. L'estimation ne fut pas favorable. Il s'était livré au négoce pour des raisons extra-commerciales. Son choix avait été guidé par un goût instinctif pour les affaires ténébreuses, où le travail est nul et le profit facile. En outre, il restait ainsi dans la sphère que surveille la police. Et M. Verloc, ayant des relations secrètes qui le rendaient fort tranquille vis-à-vis de la police, cette circonstance était, dans sa situation, un réel avantage. Mais comme moyen d'existence, son commerce en soi-même était insuffisant. Il sortit du tiroir la caisse à monnaie et l'emporta. Il s'apprêtait à quitter la boutique quand il aperçut que Stevie n'était pas encore monté. « Que peut-il bien faire là ?» se demanda M. Verloc. Que signifient ces singeries? D'un air indécis, il dévisagea son beau-frère, mais il ne lui demanda pas d'éclaircissement. Les rapports de M. Verloc et de Stevie se bornaient à la réquisition accidentelle, mâchonnée après le petit déjeuner, mes chaussures. Encore était-ce plutôt la manifestation générale d'un besoin qu'un ordre direct. M. Verloc s'aperçut avec quelque surprise qu'il ne savait réellement que dire à Stevie. Arrêté au milieu du petit salon, il regardait, muet, dans la direction de la cuisine. Il n'avait pas davantage idée de ce qui arriverait s'il se décidait à parler. Cela parut alors fort bizarre à M. Verloc, en face de ce fait qui se précisa tout à coup dans son esprit, qu'il avait aussi ce garçon-là à nourrir. Il n'avait jamais envisagé jusqu'alors cet aspect de l'existence de Stevie. Il ne sut positivement comment s'adresser au gamin. Il le regardait gesticuler en bégayant dans la cuisine. Stevie tournait autour de la table comme un animal furieux dans une cage. « Monsieur Verloc se risqua. Ne ferais-tu pas mieux d'aller te coucher à cette heure-ci ?» Mais cette invite ne produisit aucun effet. Alors, renonçant à contempler son beau-frère, Monsieur Verloc traversa d'un pas traînant le salon, son casier de monnaie à la main. La lassitude qu'il éprouvait en gravissant l'escalier, ayant une cause purement morale, il s'alarma de ne pouvoir se l'expliquer. Tout en souhaitant de n'être pas malade, il s'arrêta sur le palier obscur pour interroger ses sensations. mais un ronflement léger et continu traversant l'ombre vint troubler la netteté de son analyse. Le bruit provenait de la chambre de sa belle-mère. « Encore une bouche à nourrir, » pensa-t-il, et sur cette réflexion, il se dirigea vers la chambre conjugale. Madame Verloc s'était endormie, la lampe allumée, posée sur la table, au chevet du lit. Il n'y avait pas de gaz au premier étage. La lumière, rabattue par l'abat-jour, tombait éblouissante sur l'oreiller blanc où s'enfonçait la tête de la jeune femme, les yeux clos, avec ses cheveux sombres tressés en plusieurs nattes pour la nuit. L'appel de son nom la réveilla, et elle vit son mari debout à côté d'elle. « Winnie, Winnie !» Elle ne bougea pas tout d'abord, restant tranquillement allongée et regardant le casier à monnaie que tenait M. Verloc. Mais quand elle eut compris que son frère était en train de faire des cabrioles dans tout le rez-de-chaussée, elle ne fit qu'un saut sur le bord du lit. De son pied nu, semblant émerger du fond d'un sac de calicot privé de tout ornement et étroitement boutonné au col et au poignet, elle explorait la descente de lit à la recherche de ses pantoufles, sans quitter des yeux la figure de son mari. « Je ne sais comment le prendre, » expliqua M. Verloc d'un ton bourru. « Il ne faut pas le laisser tout seul en bas avec la lumière. » Sans répondre, elle glissa rapidement à travers la pièce, dont la porte se referma sur sa forme blanche. M. Verloc posa sa caisse sur la table de nuit et se mit à se déshabiller. Il lança à la volée son pardessus sur une chaise. Sa jaquette et son gilet prirent le même chemin, puis il se promena dans la chambre en chaussettes, et sa corpulente image, les mains s'acharnant nerveusement à son col, passa et repassa devant la longue glace qui décorait la porte de la garde-robe de sa femme. Ensuite, après avoir fait glisser ses bretelles sur ses épaules, il fit violemment remonter le store, appuya sa tête inquiète sur la froide et mince feuille de verre qui le séparait, seul, de l'énorme amoncellement de briques, d'ardoises et de pierres, chaos glacé, noir, humide et boueux, d'éléments en eux-mêmes déplaisants et hostiles à l'homme. M. Verloc ressentit cette hostilité latente des choses du dehors au point d'en éprouver une véritable angoisse physique. Il n'y a pas de métier qui trahisse plus complètement son homme que celui d'agent secret de la police, si les choses viennent à se gâter. C'est comme si votre cheval tombait mort tout à coup entre vos jambes au beau milieu d'une plaine aride et inhabitée. Cette comparaison vint tout naturellement à l'idée de M. Verloc. Il avait monté plus d'un cheval au temps de son service militaire, et il éprouvait à cette heure la sensation d'un commencement de chute. L'horizon était aussi noir que la vitre où il appuyait son front. Et soudain, l'ironique figure de M. Vladimir lui apparut, dans la gloire de son teint frais, comme un cachet de cire rose apposé sur la fatale noirceur. Cette vision lumineuse et mutilée lui fut si horrible qu'il s'écarta brusquement de la fenêtre en lâchant le store qui retomba avec bruit. Les traits décomposés, muet de terreur et appréhendant de nouvelles visions, il vit sa femme réintégrer la chambre, se remettre au lit de la façon la plus naturelle, et il se sentit désespérément seul au monde. Madame Verloc exprima sa surprise de le trouver encore debout. « Je ne me sens pas très bien, » murmura-t-il, passant la main sur son front moite. « Un étourdissement ? Peut-être. Je ne suis pas bien du tout. » Madame Verloc, avec toute la sérénité d'une femme d'expérience, lui fit part de son opinion rassurante sur la cause de son malaise et lui indiqua les remèdes habituels. Mais son mari, planté au milieu de la pièce, se contenta de secouer tristement la tête. « Tu vas attraper froid, restez là. » M. Verloc fit un effort, acheva de se déshabiller et se mit au lit. En bas, dans la rue étroite et silencieuse, des pas cadencés s'approchaient de temps en temps de la maison, puis se mouraient au loin, égaux et inlassables, comme si le passant devait marcher toute l'éternité de réverbère en réverbère dans une nuit sans fin. Et l'on entendait distinctement le tic-tac endormant de la vieille pendule installée sur le palier. Madame Verloc, étendue sur le dos, les yeux au plafond, remarqua « Les recettes sont très minces aujourd'hui. » M. Verloc, dans la même position, s'éclaircit le gosier pour proférer un commentaire capital et demanda « As-tu éteint le gaz en bas ?»« Oui, » répondit Winnie. « Ce pauvre garçon est dans un état d'énervement extrême ce soir, » ajouta-t-elle au bout d'un moment, qui dura trois tic-tac de la pendule. M. Verloc s'inquiétait peu de l'état de Stevie. Il sentait avec horreur que le sommeil ne venait pas, et il redoutait surtout de se trouver face à face avec le silence et l'obscurité, quand la lampe serait éteinte et sa femme endormie. Pour éloigner ce moment, il fit tout haut la réflexion que Stevie ne l'avait pas écouté quand il lui avait proposé d'aller se coucher. Et donnant dans le piège, Winnie se crut obligée de démontrer à son mari qu'il n'y avait de la part de Stevie aucune mauvaise intention, mais simplement de l'énervement. Il n'existait pas dans tout Londres de jeune homme du même âge, plus complaisant et plus docile que Stevie, affirma-t-elle. Il n'y en avait pas de plus affectueux, de plus prêt à se rendre agréable et même utile, tant qu'on ne lui tournait pas la tête avec de sottes déclamations. Et Madame Verloc, se soulevant à demi, s'appuya sur le coude, anxieuse de savoir si son mari considérait Stevie comme un membre utile de la famille. Cette ardeur de protection compatissante, exaltée dès l'enfance d'une façon presque morbide par l'état misérable de son frère, colorait d'une légère rougeur sa joue mate et donnait de l'éclat à ses grands yeux derrière le rideau sombre des paupières. Madame Verloc semblait alors rajeunie et beaucoup plus agitée, certes, que la Winnie de Belgravia ne s'était permis de le paraître aux yeux des pensionnaires de la maison meublée. Mais M. Verloc était trop occupé de ses propres tourments pour attacher aucun sens à ses explications. C'était comme si sa femme avait parlé de l'autre côté d'une épaisse cloison, et seul l'aspect de ce visage animé le rappela à lui-même. Il appréciait sa femme, et ce sentiment, remué soudain par la manifestation d'une sorte d'émoi, ajouta une torture de plus à son angoisse morale. Quand elle se tut, il s'agita avec malaise et répéta « Je ne me sens pas très bien depuis quelques jours ». C'était peut-être une entrée en matière en vue d'une complète confidence. Mais Madame Verloc reposa sa tête sur l'oreiller, et, regardant en l'air, elle reprit « Ce garçon entend trop de choses de ce qui se dit ici. Si j'avais su qu'il venait ce soir, j'aurais veillé à ce qu'il allât se coucher en même temps que moi. Il était tout retourné de certains propos qu'il a surpris. Manger la chair du peuple et boire son sang. À quoi cela sert-il de pérorer comme cela ?» Il y avait une sorte de mépris indigné dans sa voix. Cette fois, M. Verloc fit une réponse directe. « Va demander ça à Karl Yundt, » gronda-t-il avec humeur. Sans aucune hésitation, Winnie déclara que Karl Yundt était un vieux type dégoûtant. Elle ne dissimula pas sa préférence pour Michaelis. Mais du robuste Ossipon, en présence duquel elle se sentait toujours troublée, malgré la froideur de l'apparente réserve qu'elle gardait, elle ne souffla mot, et revenant à son frère, qui avait été si longtemps l'objet de son souci et de ses craintes, « Il n'est pas fait pour entendre ce qu'il se raconte ici. Il prend tout cela pour argent comptant, le pauvre, sans discerner l'exagération. Et c'est ce qui le met dans ces états-là. » M. Verloc ne répliqua rien. Il me regardait d'un air vague, comme s'il ne me connaissait pas quand je suis descendu, poursuivit Winnie. Son cœur battait comme un marteau sur une enclume. Il s'impressionne, c'est plus fort que lui. J'ai réveillé ma mère et je lui ai recommandé de rester près de lui jusqu'à ce qu'il fût endormi. Ce n'est pas sa faute à ce garçon. Il ne cause aucun ennui quand on le laisse tranquille. M. Verloc ne se livra à aucun commentaire. « Je voudrais qu'il ne fût jamais allé à l'école, » recommença brusquement Madame Verloc. « Il va tout le temps chercher les journaux de la devanture. Il se congestionne à les lire. Nous n'en vendons pas une douzaine en un mois. Ça ne sert qu'à prendre de la place. Et toutes les semaines, M. Ossipon nous apporte une pile de son avenir du prolétariat pour les vendre un demi-penny pièce. Moi, je ne donnerai pas un demi-penny de tout le paquet. C'est idiot, pas autre chose. Qui se soucierait d'acheter cela ? L'autre jour, Stevie prit un numéro. Il y trouva l'histoire d'un officier allemand qui avait arraché l'oreille à une recrue et qu'on n'a pas puni pour sa brutalité. Je n'ai rien pu faire du pauvre enfant ce jour-là. Vraiment, il y avait de quoi vous mettre sans dessus-dessous. Mais à quoi sert-il d'imprimer des choses pareilles ? Nous ne sommes pas des esclaves allemands ici, Dieu merci. Ce n'est pas notre affaire, est-ce vrai ? M. Verloc s'obstina dans son silence. Il a fallu que je lui reprenne le couteau à découper, continua Madame Verloc, que le sommeil commençait à gagner. Il criait, il trépignait, il sanglotait. Il ne peut souffrir l'idée d'une cruauté. Il aurait saigné cet officier comme un porc s'il l'avait vu à ce moment-là. C'est vrai aussi, il y a des gens qui ne méritent aucune pitié. Madame Verloc se tut. L'expression de son regard fixe devint de plus en plus contemplative et voilée. Au bout d'un long moment, elle demanda d'une voix lointaine « Puis-je éteindre à présent ?» La lugubre conviction qu'avait M. Verloc de ne pouvoir fermer l'œil le plongea dans une résignation désespérée. Il fit un grand effort. « Éteins, » dit-il d'une voix creuse.